Chapitre 19. La relativité a laissé Rocky sur les fesses. Les deux premières heures, il a tout simplement refusé de me croire, avant de se rendre progressivement à l'évidence. Il faut dire que la théorie expliquait toutes les péripéties de son voyage. Cela ne lui plaît pas, mais il admet doucement que les règles de l'univers sont plus complexes qu'il n'y paraît. Après cela, nous passons une éternité à fabriquer notre chaîne. Je produis moule sur moule, tandis que Rocky coule autant de maillons que la xénonite le lui permet. C'est un bon système. Les progrès de nos résultats sont géométriques. Chaque nouveau moule que je produis permet à Rocky de fabriquer un maillon de plus par fournée. Du maillon, et encore du maillon. J'espère ne plus jamais revoir de chaîne dans ma vie. 10 kilomètres de chaîne, avec des maillons de 5 centimètres seulement. Cela fait 200 000 maillons, assemblés un par un à la main ou à la pince. Cela représente 8 heures de travail par jour pour nous deux, pendant 2 semaines complètes. Lorsque je fermais les paupières, je voyais des maillons. Je rêvais de chaînes toutes les nuits. Un soir au dîner, j'ai eu droit à des spaghettis, de fines chaînes blanches et lisses. Nous y sommes arrivés, cependant. Une fois les maillons terminés, nous les avons assemblés en parallèle. Nous faisions chacun des chaînes de 10 mètres que nous assemblions. C'était une méthode efficace. Le problème, c'était de stocker tout cela. 10 kilomètres de chaînes, cela prend beaucoup de place. Transformé en entrepôt, le labo est rapidement devenu trop exigu. Ingénieur talentueux, Rocky a fabriqué des bobines qui passaient à peine par le sas et que j'ai fixées à la coque du vaisseau à l'occasion de trop nombreuses AEV. Après quoi, j'y ai enroulé des morceaux de chaîne de 500 mètres. Pour effectuer ces AEV, je devais stopper la centrifugeuse, évidemment, aussi nous retrouvions-nous en apesanteur. Vous avez déjà essayé d'assembler une chaîne en apesanteur? Ce n'est pas très amusant. L'assemblage final des 20 morceaux de 500 mètres n'a pas été une mince affaire, car je travaillais en combinaison d'AEV. Heureusement, j'avais l'outil de manipulation de l'EMIV. La NASA n'avait pas prévu que je l'utiliserais pour assembler une chaîne, et pourtant c'est ce que j'ai fait. Rocky et moi flottons dans la salle de contrôle. Lui dans son bulbe, moi dans le fauteuil du pilote.
État de la sonde?
Appareil fonctionné,
répond Rocky en vérifiant son affichage. Rocky a fait du bon travail avec notre sonde de prélèvement. Enfin, il me semble. Je n'ai jamais été très fort en ingénierie. Cet engin est une sphère d'acier de 20 cm de diamètre, surmontée d'un anneau épais et solide auquel est accrochée la chaîne. Le long de son équateur, la boule est percée de petits trous conduisant à une autre chambre ronde intérieure. Dedans, il y a un capteur de pression et quelques actuateurs. Lorsque la pression sera bonne, le capteur ordonnera aux actuateurs de sceller la chambre. Pour cela, il leur suffira de faire pivoter la chambre de quelques degrés pour que les trous de celle-ci et de la sphère ne soient plus alignés. L'étanchéité du dispositif est garantie par quelques joints bien placés. Rocky a également installé un thermomètre et un radiateur à l'intérieur. Dès que la chambre sera scellée, le radiateur se mettra en route pour stabiliser la température de l'air emprisonné. C'est simple, mais je n'y avais pas pensé. La vie est parfois très sensible à la température. Pour finir, la sonde de Rocky est équipée d'un émetteur radio diffusant un signal analogique étrange que mes appareils sont incapables de décoder. Apparemment, il s'agit d'une connexion de données héridiennes standard. Rocky dispose du récepteur qui va avec, et c'est tout ce qui compte. Sans trop se creuser la tête ni se fatiguer, Rocky a créé un système de support-vie destiné aux astrophages. Un système qui n'a pas besoin de connaître au préalable leurs conditions de vie, mais se contentera de maintenir le statu quo. Rocky est vraiment un génie. Je me demande si tous les Iridiens sont comme lui, ou s'il est spécial.
Bon, eh bien, nous sommes prêts?
Demandai-je avec un enthousiasme plus que contenu.
Oui,
répond-il d'une voix tremblotante. Je me sangle au fauteuil du pilote, tandis qu'il agrippe 3 poignées dans son bulbe. J'ouvre la fenêtre du contrôle d'orientation et initie un tonneau. Je pointe le nez du vaisseau dans la direction d'où nous sommes venus, nous positionne parallèlement à la surface et stoppe la rotation. Nous filons donc à reculons à une vitesse de 12 km par seconde. Nous aurons besoin de descendre à presque zéro. L'orientation est bonne. Initiation poussée.
Oui,
acquiesce Rocky, concentré sur son affichage. Grâce à la caméra qu'il a installée plus tôt, celle-ci lui montre une version texturée de ce que je vois sur mon moniteur. On y va. J'active les moteurs tournants. En moins d'une seconde, nous passons de 0 à 1,5G. Je suis plaqué contre mon fauteuil, tandis que Rocky attrape une quatrième poignée pour se stabiliser. Comme le dernier chance ralentit, notre vélocité ne peut plus nous maintenir en orbite. Je vérifie sur le radar et confirme que nous perdons bien de l'altitude. J'ajuste l'orientation du vaisseau de façon qu'il pointe très légèrement au-dessus de l'horizon, d'une fraction de degré. Mais c'est trop. Le radar me montre que nous gagnons rapidement de l'altitude. Je diminue l'angle. C'est une manière rudimentaire et grossière de piloter un vaisseau spatial, mais nous ne pouvons pas faire mieux. Il n'aurait servi à rien de calculer cette manœuvre à l'avance. Il y a tellement de variables, tant de manières de fausser les calculs, que nous aurions forcément basculé très vite en pilotage manuel. Après quelques corrections supplémentaires, je commence à avoir la main. J'augmente l'angle petit à petit, comme le vaisseau ralentit par rapport à la planète.
« Vous dire quand libérer sonde ?»
dit Rocky. Sa pince est suspendue au-dessus du bouton qui éjectera les bobines et libérera la chaîne. Nous croisons les doigts pour qu'elle ne s'en mêle pas.
« Pas encore. »
Je vérifie notre orientation. Nous formons un angle de 9 degrés avec l'horizontale. Il va falloir atteindre 60 degrés. Quelque chose attire mon regard à ma droite. Les images des caméras extérieures. La planète en dessous rougeoie. Non, pas la planète tout entière. Une portion juste derrière nous. L'atmosphère réagit avec les IR expulsés par nos moteurs. La quantité d'énergie déversée par le dernier chance sur cette portion d'atmosphère est des centaines de fois plus grande que celle qui provient de Tau Ceti. Les IR réchauffent tellement l'air qu'ils s'ionisent. Il est littéralement chauffé au rouge. À mesure que notre angle augmente, l'éclat devient plus intense. Alors la zone affectée commence à enfler. Je savais que cela se produirait et que ce serait important, mais je ne pouvais pas deviner à quoi cela ressemblerait. Nous laissons une balafre rouge dans l'atmosphère, détruisant tout sur notre passage. Le dioxyde de carbone est probablement décomposé par toute cette énergie, décomposé en particules de carbone et d'oxygène. Ce dernier ne forme peut-être même plus de l'O2, tant la chaleur est intense.
« Les moteurs chauffent énormément l'atmosphère d'Adriane, » dis-je.
« Comment savoir ?» question.
« Parfois, je peux voir la chaleur. »«
Comment ?» question. « Pourquoi jamais parler avant ?» question.
« Ça a un rapport avec la vue. Ce serait trop long à expliquer maintenant. Faites-moi confiance. Nous réchauffons énormément l'atmosphère. »«
Danger ?» question.
« Je ne sais pas. »
« Réponse désagréable ?»
J'augmente l'angle petit à petit. Le rougeoiement dans notre sillage se fait de plus en plus intense. Enfin, nous atteignons l'angle visé.
« Ça y est, 60 degrés !»«
Heureux. Libération. Question.
Attendez. »«
Vélocité ?» Je regarde sur la console de navigation.
« 127,5 mètres par seconde, comme je l'avais prévu. »
Nom de nom, ça a marché. Je ressens l'attraction d'Adriane qui me plaque dans mon fauteuil. C'est une des choses que je dois souvent expliquer à mes élèves. La force de la gravitation ne disparaît pas comme par enchantement lorsqu'on est en orbite. À dire vrai, elle est sensiblement la même que celle qui règne au niveau du sol. L'apesanteur qu'expérimentent les astronautes lorsqu'ils sont en orbite vient du fait qu'ils sont en chute libre. Du fait de la courbure de la Terre, le sol se dérobe sous eux au rythme de leur chute. On peut donc parler de chute perpétuelle. Le dernier chance ne tombe plus. Les moteurs nous maintiennent en l'air et notre inclinaison nous fait avancer à reculons à la vitesse de 127 mètres par seconde,
soit environ 460 km par heure. Ce serait beaucoup pour une voiture, mais c'est incroyablement lent pour un vaisseau spatial. Derrière nous, l'air brille si fort que les caméras se désactivent automatiquement pour protéger leur numériseur. Le panneau de support vie s'affiche tout seul sur mon moniteur principal. « Température externe extrême », me prévient-il. « L'air est chaud, et le vaisseau aussi. »«
Vaisseau, pas contact avec air. Pourquoi vaisseau chaud ?» question.
« L'atmosphère nous renvoie à nos IR. Et puis, il est tellement chaud désormais qu'il émet ses propres IR. Nous cuisons. »
« Vaisseau refroidi par astrophage ?» question.
« Oui, les astrophages refroidissent le vaisseau. » Des conduits contenant des astrophages courent sur toute la longueur de la coque pour cette raison précise. Enfin, pas pour pallier la chaleur diffusée par une planète dont l'atmosphère est chauffée au rouge, mais pour des occasions plus ordinaires. Le soleil ou Tau Ceti, par exemple, réchauffe la coque, et cette chaleur n'a nulle part où aller.
« Astrophage absorbé chaleur ?» « Nous, sécurité ?»«
Je suis d'accord. On est en sécurité. »« Et prêt. Lâchez la sonde !»«
Lâchez sonde ?»
lance-t-il en abattant sa pince sur le bouton. J'entends les cliquetis et grattements des bobines qui glissent sur la coque une à une et se déroulent vers la planète. 20 bobines en tout qui tombent et se déroulent les unes à la suite des autres afin de limiter les risques d'emmêlement.
« Bobine numéro 6 déroulée, »
annonce Rocky. Le support vie affiche un nouveau message d'alerte. Je le muselle une nouvelle fois. Les astrophages vivent sur des étoiles. Je suis sûr qu'ils pourront encaisser sans aucun problème ces IR réfléchis par la planète.
Bobine numéro 12. Signal sonde parfait. Sonde détectée air.
Bien.
Bien, bien. Bobine numéro 18. Densité air augmentée.
Les caméras externes étant désactivées, je ne vois plus ce qui se passe dehors. D'après les données de Rocky, cependant, tout est normal. La chaîne est en train de se dérouler. L'angle que nous formons avec l'horizontale nous maintient dans le ciel, alors que rien n'empêche la chaîne de tomber tout droit.
Bobine numéro 20, libération terminée. Densité air dans sonde, proche densité nécessaire pour reproduction astrophage.
Je regarde Rocky, le souffle court.
Sonde refermée, joint étanche, radiateur actif, succès, succès, succès.
Succès ! Beuglai-je. Ça marche ! Ça marche vraiment ! Nous avons récupéré un échantillon d'air situé dans la strate où les astrophages se reproduisent. Si prédateurs il y a, ils doivent être là, non ? Je l'espère en tout cas. Deuxième étape maintenant. Ce sera moins amusant cette fois. Je défais mes sangles et me hisse hors de mon fauteuil. Les 1,4G de la pesanteur d'Adriane m'attirent selon un angle de 30 degrés. J'ai l'impression que la salle de contrôle est penchée. En fait, ce n'est pas une impression. Elle l'est vraiment. Ce que je ressens, ce n'est pas la poussée des moteurs, mais bien la force gravitationnelle de la planète. 1,4G, ce n'est pas énorme. Tout est un peu plus difficile, mais faisable. Je monte dans la combinaison Orlan. Ce sera extrêmement difficile. Je vais devoir sortir, effectuer une AEV, alors que je subirai l'attraction d'Adriane. Inutile de préciser que ni la combinaison d'AEV, ni le SAS n'ont été prévus pour cela, et que je n'ai pas du tout été formé pour ce cas de figure. Qui eût cru que j'aurais besoin un jour de me promener sur la coque du vaisseau en pleine pesanteur? Plus que pleine même. De la force gravitationnelle, mais pas d'air. Le pire des deux mondes. Il n'y a pas d'autre solution, cependant. Nous avons besoin de cet échantillon. Pour l'instant, la sonde est accrochée à l'extrémité d'une chaîne de 10 km. Elle se balance dans l'atmosphère. Il n'existe pas de façon simple de récupérer cet échantillon et de le rapporter à bord. Lorsque j'ai planifié cette opération, j'ai d'abord pensé à nous éloigner de la planète pour récupérer l'échantillon en apesanteur. Malheureusement, il n'existe aucun moyen d'accomplir cette manœuvre sans vaporiser la sonde. En effet, la seule façon de nous libérer de la gravitation d'Adriane, ou même de recouvrer une orbite stable, serait d'utiliser les moteurs tournants. Il propulserait le vaisseau, qui traînerait alors la chaîne dans son sillage, mettant la sonde dans l'axe des émissions d'hier. Et alors la chaîne, la sonde et son contenu seraient réduits à l'état d'atomes très chauds. J'avais également eu l'idée de fabriquer une très grosse et solide bobine qui nous aurait permis de remonter les 10 kilomètres de chaîne. Mais Rocky m'a informé qu'il serait incapable de fabriquer une bobine suffisamment grande et forte pour y arriver. De son côté, l'Éridien avait eu une idée intéressante. La sonde aurait pu gravir la chaîne d'elle-même une fois sa mission accomplie. Le risque aurait été trop grand, cependant. Voilà pourquoi nous avons conçu cet autre plan. J'attrape un treuil spécial que Rocky a conçu et je le fixe au ceinturon à outils de ma combinaison.
Prudence, vous, mon ami désormais.
Merci. Vous êtes mon ami aussi.
Merci.
J'attends que le sas ait terminé sa décompression et je jette un coup d'œil dehors. C'est une étrange expérience. L'espace est noir. La planète est majestueuse en dessous. Le décor est fidèle à ce qu'il doit être en orbite, sauf qu'il y a de la pesanteur. Le rougeoiement de la planète forme un halo autour du vaisseau. Je ne suis pas une andouille. J'ai orienté le vaisseau de manière que le dernier chance me protège de la chaleur réfléchie par l'atmosphère. La porte du sas est en haut. Je dois donc me hisser, avec mes 50 kilos de matériel, à travers l'ouverture. Et je dois le faire dans une pesanteur de 1,4 G. Cela me prend 5 bonnes minutes. Je grogne. Je profère quelques quasi-jurons, mais j'y parviens. Bientôt, je me dresse sur la coque du vaisseau. Un faux pas et je meurs. La mort ne serait pas longue à venir. Si je tombais sous le vaisseau, les moteurs composteraient instantanément mon ticket pour l'enfer. Je fixe un filin à un rail à mes pieds. Ce filin conçu pour servir en apesanteur, me sauvera-t-il si je chute? Ce n'est pas du matériel d'alpiniste. Il n'a pas été fait pour cela, mais c'est mieux que rien, j'imagine. Je marche sur la coque jusqu'au point d'ancrage de la chaîne. C'est un grand carré de xénonite fabriqué par Rocky et collé par mes soins en respectant scrupuleusement ses consignes. Le dispositif a tenu. La chaîne est toujours là. Je me mets à 4 pattes juste devant. La pesanteur est vraiment brutale dans la combinaison d'AEV. Rien de ce que nous faisons n'était prévu. J'accroche mon filin, peut-être inutile, à une poignée toute proche et détache le treuil de mon ceinturon. La chaîne est inclinée à 30 degrés et disparaît vers la planète en dessous. Elle est si longue, elle s'affine tellement qu'elle devient invisible 1000 mètres plus bas environ. Grâce aux appareils de Rocky, je sais qu'elle mesure bel et bien 10 kilomètres et qu'elle se termine par une sphère contenant le salut de 2 planètes entières pleines de gens. Je coince le treuil entre la plaque d'ancrage et la chaîne. Celle-ci ne bouge pas 1 millimètre, comme il fallait s'y attendre. Les muscles humains sont incapables de déplacer quelque chose de si lourd. J'installe le treuil sur la plaque. Le boîtier du treuil est en xénonite, tout comme la plaque. Aussi l'ensemble devrait-il être à toute épreuve, et résister à ce qui va suivre. Je donne 2 coups dans le treuil pour m'assurer qu'il est bien positionné. Il l'est. J'appuie sur le bouton d'activation. Un engrenage sort du centre du boîtier, une dent accrochant un premier maillon en son milieu. L'engrenage tourne et entraîne la chaîne à l'intérieur du boîtier, où le maillon est retourné à 180 degrés, puis transmis à un autre engrenage. Lorsque nous avons conçu cette chaîne, nous avons prévu des maillons assemblables sans soudure, mais très difficiles à décrocher par un mouvement aléatoire. Le mouvement précis nécessaire pour désassembler les maillons, le treuil de Rocky le pratique justement. Une fois le maillon décroché, il est éjecté sur le côté et le processus se répète.
« Le treuil fonctionne !»
annonçai-je par radio.
« Heureux !»
C'est un système simple, élégant, qui résout tous nos problèmes. Le treuil est assez puissant pour tirer la chaîne. Il sépare les maillons et les laisse tomber un à un vers la planète en dessous, car il aurait été dangereux de laisser pendiller une portion de chaîne à côté de la sonde. Imaginez des câbles d'écouteurs emmêlés et multipliez le problème par 10 kilomètres. Les maillons tomberont donc individuellement dans l'oubli, sans présenter le moindre danger pour le reste de la chaîne.
Quand Treuil atteindre maillon numéro 216, augmenter vitesse.
Oui. Je n'ai pas la moindre idée du nombre de maillons déjà décrochés, mais on progresse au rythme de 2 par seconde environ. Un démarrage lent et sûr. Je fixe du regard le dispositif pendant 2 minutes. Tout semble se dérouler comme prévu.
Tout se passe bien. Nous avons remonté plus de 216 maillons à présent.
Augmenter vitesse.
2 maillons par seconde, cela peut paraître satisfaisant, mais il faudrait alors 30 heures pour remonter toute la chaîne. Je n'ai pas envie de rester dehors, ni d'user de nos moteurs de la sorte si longtemps. Je pousse un levier vers l'avant. Le treuil accélère. Comme le dispositif semble efficace, je mets le levier sur sa position maximale. À présent, le treuil éjecte les maillons trop vite pour que je puisse les compter, et la chaîne s'élève à un rythme soutenu.
Vitesse maximale enclenchée. Tout se passe normalement.
Heureux.
Je garde une main sur le levier et les yeux sur la chaîne. Si la sphère atteint le treuil, ce sera la catastrophe. La chambre scellée sera détruite, les échantillons dispersés, et nous devrons fabriquer une autre chaîne. C'est hors de question. Mon Dieu, je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'est exclu. Les yeux plissés, je regarde en bas, plus vigilant que jamais. L'ennui est mon plus grand ennemi. Je sais que la remontée va prendre un certain temps, mais je veux être prêt lorsque le moment viendra.
Signal radio sonde très fort, toute proche maintenant. Vous tenir prêt?
Je suis prêt.
Vous tenir très prêt?
Je suis très prêt, calmez-vous.
Moi calme, vous calme aussi.
Non, vous calmez-vous. Attendez, je vois la sonde.
L'extrémité de la chaîne, avec la sonde attachée, me fonce dessus. J'attrape le levier et diminue la vitesse du treuil. La sonde ralentit, et ralentit encore, jusqu'à atteindre une allure d'escargot. Presque tous les maillons sont tombés dans le néant et l'oubli, et la sonde est enfin à portée de main. Je stoppe le treuil. Au lieu de prendre le risque de laisser échapper la sphère, je saisis le premier maillon restant et le décroche du treuil. J'ai ma boule et ma chaîne maintenant. Je m'accroche à cette chaîne comme à la vie et je la fixe à mon ceinturon. Mais je la serre toujours dans ma main. Pas question de prendre le moindre risque.
État, question?
J'ai récupéré la sonde. Je rentre.
Incroyable. Heureux, heureux, heureux.
Ne criez pas victoire trop tôt. Attendez que je sois rentré.
Compris.
Je fais 2 pas et le vaisseau tremble sous mes pieds. Je tombe sur la coque et agrippe 2 poignées.
Qu'est-ce que c'était que ça?
Pas savoir. Vaisseau bouger, soudainement.
Le vaisseau tremble de nouveau, et cette fois il ne cesse pas de bouger. Les moteurs poussent dans la mauvaise direction.
Vous rentrez vite, vite.
L'horizon s'élève au-dessus de moi. Le dernier chance n'arrive plus à maintenir son angle. Il pointe vers l'avant, ce qui n'est absolument pas prévu. Je progresse de poignée en poignée. Je n'ai pas le temps d'accrocher un filin chaque fois. Je croise les doigts pour ne pas tomber. Une nouvelle secousse, et le vaisseau glisse latéralement sous mes pieds. Je tombe sur le dos, mais je ne desserre pas mon empreinte de mort sur la chaîne. Que se passe-t-il? Pas le temps de réfléchir. Je dois rentrer à bord très vite, ou bien le vaisseau me renversera et me tuera. Je m'accroche aux poignées pour ne pas mourir et rame vers le sas. Dieu merci, il est toujours plus ou moins tourné vers le haut. Je presse la sonde contre ma poitrine et me laisse tomber dans l'ouverture. Je tombe tête la première. Heureusement pour moi, la combinaison Orlan est robuste. Je me relève tant bien que mal avec l'encombrante combinaison. Je lève les bras, attrape la porte extérieure et la referme en la claquant. Je pressurise le sas et sors aussi vite que possible de la combinaison d'AEV. Je décide de laisser la sonde dans le sas pour le moment. J'ai d'abord besoin de savoir ce qui se passe avec le vaisseau. Je tombe et je grimpe à la fois dans la salle de contrôle. Rocky est dans son bulbe.
« Moniteur affiché beaucoup couleur, clignoté !»
hurle-t-il par-dessus le vacarme. Il pointe sa caméra dans toutes les directions et observe son moniteur texturé. Un gémissement métallique résonne sous nos pieds. Quelque chose est en train de se tordre à contre-cœur. La coque, je pense. Je m'installe dans le fauteuil du pilote. Je n'ai pas le temps de me sangler. D'où vient ce bruit?
De partout. plus fort dans dortoir, à côté segment paroi tribord, paroi courbée vers intérieur.
Quelque chose est en train de tordre le vaisseau. C'est la gravitation de la planète.
Même avis.
Quelque chose me gêne sans que je puisse mettre le doigt dessus. Ce vaisseau a été conçu pour les accélérations. Il a encaissé 4 années à 1,5 G. Il devrait être capable de supporter une force comparable. C'est bizarre.
Rocky attrape plusieurs poignées pour se stabiliser.
Sonde récupérée. Partir immédiatement.
Ouais, tirons-nous.
Je pousse les contrôles des moteurs tournants au maximum. Le navire peut générer une accélération de 2G en cas d'absolue nécessité. C'est le moment ou jamais.
Le vaisseau bondit. Ce n'est pas une poussée gracieuse et bien exécutée. La manœuvre trahit notre panique et notre désespoir.
Pour quitter un puits gravitationnel, le mieux est de voler latéralement, afin de tirer parti de l'effet Oberth. J'essaye de voler parallèlement au sol. Je ne cherche pas à échapper à Adrian, simplement à trouver une orbite stable qui ne nécessiterait pas l'usage prolongé de nos moteurs. Pour cela, j'ai besoin de vélocité, pas de distance. Les moteurs vont devoir fonctionner à pleine puissance pendant 10 minutes, ce qui devrait nous permettre d'atteindre les 12 km par seconde nécessaires pour rester en orbite. Il me suffit de viser un tout petit peu au-dessus de l'horizon et d'accélérer. Sauf que cela ne se passe pas du tout comme prévu. Le vaisseau dévie constamment de sa trajectoire et dérive latéralement. Que se passe-t-il?
Quelque chose ne tourne pas rond. Le vaisseau me résiste.
Rocky n'a aucun mal à s'accrocher. Il est beaucoup, beaucoup plus fort que moi.
Moteur endommagé? Question. Adrian émettre grande chaleur?
Peut-être.
Je me tourne vers la console de navigation. Nous gagnons en vélocité. C'est déjà ça.
Coque se tordre dans grande salle sous dortoir.
Quoi? Il n'y a pas de salle sous... Oh!
Avec son écholocation, il perçoit l'ensemble du vaisseau, pas simplement les parties habitables. Lorsqu'il fait référence à une grande salle sous le dortoir, il parle des réservoirs de carburant.
Mon Dieu!
Désactiver moteur? Question.
Nous volons trop lentement. Nous allons tomber dans l'atmosphère.
Compris. Espoir.
Espoir? Oui, espoir.
Il ne nous reste que l'espoir. L'espoir que le vaisseau ne se disloquera pas avant que nous trouvions une orbite stable. Les quelques minutes qui suivent sont les plus tendues de ma vie. Pourtant, j'ai eu mon lot de moments tendus les semaines passées. La coque continue à faire des bruits bizarres, mais nous ne sommes pas morts, ce qui signifie qu'elle tient le choc. Enfin, après ce qui paraît bien plus que 10 minutes, notre vélocité nous permet de rester en orbite.
La vélocité est bonne. Je stoppe les moteurs.
J'abaisse complètement les curseurs. Je me repose sur l'appui-tête, soulagé. Maintenant, nous avons le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Inutile d'user des moteurs pour... Attendez. Ma tête est tombée sur l'appui-tête. Je suis retombé dans mon fauteuil. Je tends les bras devant moi et les relâche, et ils retombent vers le bas et la gauche.
Pesanteur toujours présente,
remarque Rocky, faisant écho à mes propres pensées. Je vérifie la console de navigation. Notre vélocité est bonne, notre orbite autour d'Adrian stable. Enfin, pas vraiment. L'apogée se trouve 2000 km plus loin que le périgée. C'est une orbite, cependant, et elle est stable. Je vérifie le panneau des moteurs tournants. Ils sont tous les trois à zéro. Aucune poussée. Je me plonge dans l'écran de diagnostic et confirme que chacun des 1009 triangles girouettes répartis dans les trois moteurs est stationnaire. Je laisse mon bras retomber. Vers la gauche, une nouvelle fois. Rocky fait la même expérience avec un de ses membres.
Attraction, Adrian? Question.
Non, nous sommes en orbite.
Réponds-je en me grattant la tête.
Moteur tournant, question.
Non, ils sont désactivés. Il n'y a aucune poussée.
Je laisse une fois de plus retomber mon bras. Cette fois, elle retombe sur l'accoudoir.
Aïe!
Lâchai-je en secouant la main. J'ai vraiment eu mal. Je laisse encore une fois tomber mon bras pour faire une expérience. Il tombe plus vite, me semble-t-il. Voilà pourquoi j'ai eu mal.
Rocky sort quelques outils de son ceinturon et les laisse tomber un par un.
Pesanteur augmentée.
Ça n'a aucun sens. Je me tourne vers l'écran de navigation. Notre vitesse a considérablement augmenté depuis la dernière fois que j'ai regardé.
Notre vélocité augmente.
Moteur actif. Seule explication.
Impossible. Les moteurs tournants sont éteints.
Rien ne nous fait accélérer.
Force augmentée.
Oui. Je commence à avoir du mal à respirer. J'ai l'impression que nous subissons bien plus que 1 ou 2 G. Nous perdons le contrôle de la situation. Difficilement, je tends le bras vers le moniteur principal et fais défiler les panneaux. Navigation, pétrovascope, vue externe, support vie. Tout semble parfaitement normal, jusqu'à ce que j'avise la fenêtre structure. Je ne me suis jamais tellement intéressé à ce panneau-là qui montre un schéma du vaisseau en trait gris. Pour la première fois cependant, il a quelque chose à me dire. Il y a une tache rouge irrégulière sur le réservoir bâbord. S'agit-il d'une brèche? C'est possible. Les réservoirs se situent hors de la zone pressurisée. Il pourrait y avoir une grosse brèche à cet endroit sans que nous perdions de l'air.
Il y a un trou dans le vaisseau,
dis-je en revenant à l'écran des caméras externes, et en me faisant mal au bras. Rocky suit ce que je fais grâce à son écran texturé. Il semble se débrouiller très bien, ne pas souffrir du tout de la force colossale que nous subissons. Je fais pivoter les caméras vers la partie affectée de la coque et je trouve ce que je cherche. Un trou énorme, à bâbord. Il doit mesurer 20 mètres de long sur un demi-mètre de largeur. Ses contours sont caractéristiques. La coque a fondu. Un retour de flamme de l'atmosphère d'Adriane. Non pas une explosion physique, mais des IR purs réfléchis par l'atmosphère de la planète. Le vaisseau a tenté de me prévenir que la coque était trop chaude. J'aurais dû écouter. J'étais convaincu que la coque ne pouvait pas fondre. Elle est refroidie par les astrophages, après tout. Quelle naïveté! Même si l'astrophage est l'absorbeur de chaleur parfait, ce qui est bien possible, cette chaleur doit traverser le métal avant d'être absorbée. Si la couche externe de la coque atteint sa température de fusion avant que la chaleur traverse l'épaisseur de la coque, les astrophages n'y peuvent rien.
C'est confirmé. Une brèche dans la coque. Réservoir de carburant bâbord.
Pourquoi pousser? Question.
Les pièces du puzzle s'assemblent d'elles-mêmes.
Merde! Les réserves d'astrophages! Ils sont exposés au vide. Ils voient Adriane. Mon carburant migre vers Adriane pour se reproduire.
Mal, mal, mal.
C'est l'origine de la poussée. Des billions et des billions de petits astrophages surexcités, prêts à se reproduire. Soudain, on leur montre Adriane. Non seulement une source de dioxyde de carbone, mais également leur planète d'origine. La planète sur laquelle ils ont évolué pendant des milliards d'années avant de s'en détacher. Chaque fois qu'une couche d'astrophages se précipite hors du vaisseau, une autre est exposée à la vue d'Adriane. Le vaisseau est propulsé par les émissions d'IR des astrophages qui le quittent. Heureusement, leurs congénères présents dans leur dos absorbent cette énergie. Ce faisant, cependant, ils absorbent également de l'élan. Le système est loin d'être parfait. C'est une explosion chaotique et crachotante. D'un instant à l'autre, cela pourrait dégénérer en un plumet plus violent et moins contenu qui nous vaporiserait. Il faut absolument mettre un terme à cette catastrophe. Je peux vidanger les réservoirs. J'ai découvert cette fonction lors de mon premier jour passé à explorer la salle de contrôle. Où est cette commande? Au prix d'un effort colossal, je lève le bras vers l'écran et je fais apparaître le panneau des astrophages. Il me montre un plan du vaisseau où les réservoirs sont divisés en 9 rectangles. Je n'ai pas le temps de déterminer lesquels de ces rectangles représentent la part de la coque endommagée. Je grogne, tends le doigt et tapote la zone qui me semble la bonne.
« Vidange, mauvais, réservoir !»
dis-je en serrant les dents.
« Oui, oui, oui !»
m'encourage Rocky. L'écran des réservoirs apparaît sur le moniteur. Astrophage, 112,079 kg. Juste à côté, il y a un bouton rouge marqué « Vidange ». J'appuie dessus. Une boîte de dialogue s'ouvre, je confirme. Une accélération soudaine me projette sur le côté. Même Rocky ne parvient pas à rester en place. Il heurte la paroi de son bulbe, mais se reprend rapidement et agrippe fermement cinq poignées. La coque gémit encore plus fort que précédemment. L'accélération n'a pas cessé et ma vue se brouille. Le fauteuil du pilote commence à se tordre. Je suis sur le point de perdre connaissance. L'accélération doit être d'au moins 6G.
« Poussez, continuez !»
lance Rocky d'une voix chevrotante. Je ne réponds pas. Je suis incapable d'émettre le moindre son. Je sais que le réservoir que j'ai vidangé se situe bien dans la zone endommagée, mais il doit y en avoir d'autres. Pas le temps d'être subtil. Dans quelques secondes, je n'aurai plus la force de lever la main vers le moniteur. S'il y a un autre réservoir éventré, il se situe forcément à côté de celui que j'ai vidangé. Sauf que deux réservoirs sont adjacents à celui-ci. J'en choisis un au hasard. C'est du 50-50. Au prix d'un effort herculéen, je tape sur l'icône vidange et je confirme. Un choc secoue le vaisseau et me ballotte comme une poupée de chiffon. Dans ma vision périphérique de plus en plus resserrée, je vois Rocky rouler en boule, projeté en tous sens, laissant des traînées de sang argenté partout. J'ai l'impression que la force est encore plus intense. Plus intense, certes, mais elle a changé de direction. Au lieu d'être plaqué contre mon fauteuil, je suis poussé vers l'avant, retenu par mes sangles. Étrangement, l'écran de la centrifugeuse apparaît subitement. Un message clignote avec force. Force centrifuge excessive. Gémis-je. Je voulais dire « Oh mon Dieu », mais je n'arrive même plus à respirer. Tout ce carburant jaillissant dans l'espace de manière chaotique et non pas dans l'axe long du vaisseau. La poussée est latérale, qui imprime un mouvement de toupie. Et l'explosion des réservoirs de carburant a sans doute aggravé la situation. Le bon côté des choses, c'est qu'il n'y a plus de fuite. Il n'y a pas de nouveau vecteur de poussée agissant sur le vaisseau. Désormais, je n'ai à gérer que la rotation. J'arrive à inspirer. La force centrifuge est moins importante que la poussée incontrôlée, mais elle reste phénoménale. Mais encore du côté positif, elle pousse ma main vers le moniteur cette fois. Si je parviens à activer les moteurs tournants, peut-être que j'annulerai... Mon fauteuil finit par céder. J'entends les points d'ancrage métallique lâcher. Je tombe en avant, vers le moniteur. Je suis sanglé à mon fauteuil en métal qui m'écrase. Ce fauteuil n'est probablement pas très lourd dans une pesanteur normale, disons 20 kg. Avec une telle force centripète, cependant, j'ai l'impression d'avoir un bloc de béton dans le dos. Je ne peux plus respirer. Ça y est. Le poids du fauteuil est tel que je suis dans l'incapacité d'emplir mes poumons. Je suis pris de vertige. On appelle cela une suffocation mécanique. C'est la technique utilisée par le boa constrictor pour tuer ses proies. Quelle drôle d'ultime pensée tout de même. Désolé, la Terre. Voilà qui est mieux. Bien plus digne. Plein de dioxyde de carbone, mes poumons sont pris de panique. L'afflux d'adrénaline n'est pas suffisant pour me donner la force de me libérer. Il me maintient seulement éveillé pour me permettre de ne rien manquer de ma propre mort. Merci, mes chères glandes surrénales. Les gémissements du vaisseau ont cessé. J'imagine que tout ce qui pouvait casser a cédé, que ce qui reste est capable de supporter ce stress. Mes yeux s'emplissent de larmes. Ils me piquent. Pourquoi ? Suis-je en train de pleurer ? J'ai failli à ma mission. Mon espèce tout entière va mourir à cause de moi. C'est une bonne raison de pleurer. Je ne pleure pas d'émotion toutefois, mais de douleur. J'ai mal au nez aussi. Non, pas à cause de la pression physique cependant. Quelque chose me brûle les fosses nasales. Quelque chose s'est sans doute brisé dans le labo. Un produit chimique toxique. Je ne peux plus respirer, et c'est tant mieux. L'odeur serait sans doute désagréable. Soudain, contre toute attente, je respire normalement. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais je profite sans compter de ma respiration recouvrée et sifflante. Et je suis immédiatement pris d'une violente quinte de toux. De l'ammoniaque, partout, qui domine tout. Mes poumons hurlent et mes yeux pleurent. Et puis soudain, une nouvelle odeur. Le feu. Je me retourne et découvre Rocky qui flotte au-dessus de moi, non pas dans son bulbe, mais dans la salle de contrôle. Il a tranché mes sangles et retiré le fauteuil de mon dos. Je le vois le jeter de côté. Il se dresse au-dessus de moi, vacille. Je sens la chaleur qui émane de son corps à seulement quelques centimètres de moi. De la fumée jaillit des fentes du radiateur situé au sommet de sa carapace. Ses genoux tremblotent et cèdent, et il s'écroule sur le moniteur à côté de moi, le détruisant. L'écran LCD s'éteint comme son boîtier en plastique se met à fondre. Je vois une colonne de fumée s'élever vers le labo et au-delà.
« Rocky, qu'avez-vous fait ?»
L'idiot est sûrement passé par le grand sas du dortoir. Il est venu dans ma partie du vaisseau pour me sauver, et il va en mourir. Il tremble. Ses pattes sont repliées sous lui.
« Sauver, terre, sauver, Éride !»
dit-il d'une voix tremblotante avant de s'affaisser.
« Rocky !»
Sans réfléchir, j'attrape sa carapace. J'ai l'impression de poser les mains sur une plaque de cuisson. J'ai un mouvement de recul.
« Rocky ! Non !»
Mais il est immobile.